Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 18. Tout à l'heure, nous aurons en conclusion. Nous ferons une plus longue lecture dans un autre texte du Nouveau Testament. Mais je voulais introduire notre méditation ce matin avec les paroles de Jésus, Jean chapitre 18. Un dialogue entre Jésus et Pilate. Pilate, c'est qui ? Pilate, c'est le roi de l'époque. Un homme qui vraiment les choses de Dieu, un peu comme aujourd'hui, vous savez. Ah, c'est avec toutes ces religions, n'a plus rien comprendre, quoi. Un peu de distance, tout en ayant un peu son opinion, mais un homme de pouvoir. Et il croit qu'il a pouvoir de vie ou de mort sur Jésus. Et là, il y a un entretien, parce qu'il est quand même un peu troublé. Parce que quand un roi est devant un autre roi, c'est pas comme s'il était devant le simple petit gueux du village. Et c'est exactement ce genre de conversation qu'il a face à Jésus. On va lire les versets 37 et 38. 18, verset 37. On peut même lire à partir du verset 36, pardonnez-moi. Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Pilate lui dit, mais tu es donc roi ? Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi. Alléluia ! Et nous sommes son peuple. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, une expression qui veut dire quiconque aime la vérité, écoute ma voix. Et Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Je ne trouve aucun crime en lui. Ah oui, après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller voir les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Amen. J'ai voulu introduire avec ce verset la méditation qui sera le thème de la vérité. Rassurez-vous, on ne va pas faire de philosophie. Parce que la vérité selon ce monde pourrait tout simplement se résumer en une phrase, à chacun sa vérité. À chacun sa vérité. D'où la quantité de philosophes, d'idées, de penseurs, et à chacun a sa vérité. Et d'ailleurs, chacun, dans sa manière d'analyser, a vrai. Car à vrai, il y a certains qui vont voir... que ça c'est plutôt bordeaux, d'autres plutôt marron, et puis ils auront chacun un peu raison. Non, le but ce matin, c'est pas de philosopher sur la vérité, et encore moins de dire la vérité, je vais préciser ma pensée, mais on va aborder quelques sujets autour de la vérité, mais surtout ce que la Bible nous apporte sur la notion de la vérité. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental. Vous lisez la Bible, pour les lecteurs de la Bible, on ne fait peut-être pas attention parce que le mot est disséminé à gauche, à droite, mais la Bible parle énormément de vérité. Pourquoi ? Parce que la première chose que la Bible nous apprend sur la notion de la vérité, c'est que la vérité n'est pas une philosophie. La vérité n'est pas une pensée. La vérité n'est pas une manière bonne par rapport à une manière mauvaise. La vérité n'est pas une chose, n'est pas un concept intellectuel. La vérité est une personne. La Bible nous explique que Dieu est le véritable. En Apocalypse, chapitre 3, verset 7, il est appelé le Saint et le véritable. En 1 Jean, chapitre 5, verset 20, Jean nous invite à connaître le véritable. Comprenons, mes bien-aimés. Et vous qui vous posez beaucoup de questions sur l'existence et le sens de la vie. La vérité n'est pas une philosophie. La vérité n'est pas une manière de penser. La vérité, c'est une personne. Et ça, ça change tout. Parce qu'effectivement, lorsque le monde pense à la vérité comme un concept, alors oui, chacun a droit de penser, et personne ne peut dire que ta manière de penser est forcément mauvaise. Ce serait retirer ce que tu comprends et ce que tu acceptes de la vie, et ce serait même aller à l'encontre de ton individualité. Et en ce sens, le monde a raison de philosopher. Mais quand la parole de Dieu nous fait comprendre et nous explique que la vérité, c'est une personne, ça change tout. Parce qu'une personne, on peut la rencontrer. Une personne peut agir. Une personne laisse des traces. Une personne, nous pouvons communiquer avec elle. Et c'est ça qui fait toute la différence. Nous ne croyons pas en une philosophie chrétienne, nous croyons en Dieu. Qui est la vérité ? Parce que nous avons rencontré cette vérité. Et la Bible nous dit qu'il y a des effets de cette vérité sur nous. Non pas parce que nous croyons en un modèle. Nous ne sommes pas dans un carcan, il n'y a pas de secte, il n'y a pas de modèle type. Nous sommes tous, et je bénis l'Église pour ça, de tous de conditions différentes, d'éducations différentes. Nous éduquons même nos enfants de manière différente. Mais nous avons tous un point commun. Il y a quelqu'un qui habite dans nos cœurs et c'est le véritable. Amen. C'est essentiel de réaliser ce matin que nous ne sommes pas réunis autour d'un message. Nous ne sommes pas réunis autour d'un modèle de vie. Nous ne sommes pas réunis autour d'un dogme qui aurait été établi et que nous on dira parce que ce dogme-là il est meilleur que les autres. Ça, ça n'a aucun sens. En ce sens-là, Pilate a raison, mais qu'est-ce que la vérité ? Et pourquoi vous avez plus raison que ceux qui sont à 300 ou à 600 mètres de vous ? Il a raison. Il n'y a pas de vérité au sens humain du terme. Mais la Bible nous explique qu'il y a le véritable. Et la motivation de ce matin, ce n'est pas de nous bourrer le mou en nous disant « nous avons la vérité, je durcirai votre cœur ». Mais le désir de ce matin, c'est que nous réalisions que Dieu est le véritable et que si nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons aspirer à plus de vérité. Parce que si Dieu est la vérité, et que notre cœur a pris de la distance sur cette notion de la vérité, sur la grandeur de la vérité, sur la puissance de la vérité, sur l'aspiration de la vérité, alors nous allons perdre des expériences avec le Seigneur Jésus. Comprenons le schéma spirituel qui nous est présenté dans la Bible. La vérité n'appartient pas à un système. La vérité, c'est Dieu. Il est la vérité. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Jésus n'est pas venu pour lui-même. Il n'est pas venu en star. Il n'est pas venu pour dire, voilà, regardez-moi. Non, il dira toujours, regardez au Père. Je suis l'image du Père. Venez à moi, parce que par moi, vous irez au Père. Jésus n'est pas venu en superstar pour attirer la gloire à lui. Il est venu pour ramener le cœur des hommes vers Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est cette individualité spirituelle et universelle. La vérité, elle est Dieu. Du coup, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. La Bible est la vérité. Certains disent, il y a la vérité dans la Bible. Sous-entendu, il y a du vrai. Mais il ne faut peut-être pas exagérer. Mais si, la parole de Dieu est la vérité parce qu'elle sort du cœur de Dieu. Et Dieu est le véritable. Donc ce qu'il dit est la vérité. Trouvez-moi un seul livre au monde qui soit rempli comme ce livre de centaines de prophéties qui se sont accomplies. De temps en temps même, au mois près. Trouvez-moi un livre comme celui-ci qui est rempli d'annonces prophétiques à des dizaines, des centaines et même des milliers d'années. Ça n'existe pas. Trouvez ça un seul livre qui a été écrit sur 3000 ans et qui encore aujourd'hui est d'une modernité extraordinaire. Trouvez-moi un seul livre qui soit aussi juste, aussi vrai, qui a pu penser à la condition de la femme il y a 3000 ans jusqu'à aujourd'hui et qui est encore une référence pour toutes les textes de loi du monde entier. Trouvez-moi un seul livre où vous pourriez lire ce qui est écrit. Ah, moi je voudrais vivre ça et vous pourriez le lire. Non, il n'y a que dans la parole de Dieu que l'on peut voir que c'est véritablement la vérité, parce que la vérité se rencontre, parce que la vérité se vit, parce que la vérité peut se vérifier. Si je vous dis que dehors il pleut, la seule manière de savoir si j'ai raison ou faux, c'est de regarder là-haut. Et là, ben non, il fait beau, il dit n'importe quoi. Mais c'est pareil avec la parole de Dieu. Lisez-la et commencez à vous dire, je veux vivre ce qui est écrit, et vous verrez que c'est la vérité. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité parce que Dieu a un esprit qui agit, et cet esprit qui agit, c'est un esprit de vérité étant donné qu'il est le Dieu. Jésus est la vérité parce que non pas qu'il n'y a deux dieux, mais il est le reflet de l'image du Dieu invisible. Donc il est la vérité et toute la Bible nous dit cela. Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, relisez tout ça, où il y a cette affirmation que la vérité n'est pas un concept, mais que la vérité est une personne que l'on peut rencontrer, une personne qui a parlé, une personne qui veut agir dans notre cœur. La Bible nous parle de la vérité comme un concept vital, comme un concept, comme une réalité qui doit toucher le cœur, comme quelque chose qui est non pas seulement de l'intellectualisme, mais qui est une relation d'amour. Ce matin, je vous le rappelle, l'objectif de la méditation, c'est de se replacer chacun et se dire, mais est-ce que j'aime la vérité? Est-ce que je recherche la vérité? Est-ce qu'il y a dans ma vie une aspiration à la vérité? Je n'ai relevé que 3 versets parce que... Mais le psaume 51, verset 8 dit « Tu veux, Seigneur, que la vérité soit au fond du cœur. » Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Il n'a pas dit là, dans un ratio intellectuel. En Jean, chapitre 4, verset 23, nous l'avons dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il demande des hommes qui connaissent Dieu, mais qui cherchent la vérité, qui s'attachent à lui tel qu'il est. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, Paul va parler justement de ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Il y a des gens qui vont à l'église, mais ils n'ont pas forcément l'amour de la vérité. On vient par habitude. On vient parce qu'on espère que ce matin ce sera bien, les chants, et que la prédication ne sera pas trop ennuyeuse. Mais il n'y a pas l'amour de la vérité, le désir de connaître, le désir de s'attacher. Regardez, quand on est amoureux, la chose que l'on espère le plus, c'est d'être à côté de la personne que l'on aime. On ne pense qu'à ça. Dès qu'il y a un moment, on saisit l'occasion pour être plus proche de cette personne. L'amour de la vérité, c'est cela, mes bien-aimés. S'il n'y a pas l'amour de la vérité, nous serons freinés dans notre relation avec Dieu. Peut-être qu'effectivement, il y aura eu un moment dans notre vie spirituelle où nous aurons été touchés, où nous aurons été motivés à connaître la vérité, et puis au bout d'un moment, il y aura une sorte de routine. Pardonnez-moi d'utiliser ce mot-là du côté le plus péjoratif, mais une sorte de petite tradition de vie religieuse. Mais il n'y aura plus le cœur à chercher la vérité, à aimer la vérité. J'aime, et je le dis toujours aux jeunes convertis qui ont envie de savoir plein de choses. J'y continue à vouloir connaître plein de choses. C'est un bon signe de santé spirituelle. Lorsque nous n'avons plus l'amour de la vérité, le désir d'être dans cette connaissance, dans cet approfondissement, dans ce rapprochement du divin, alors c'est là que la relation avec le Seigneur commence à s'étioler. Jésus le dira Celui qui aime, quiconque est de la vérité, celui qui aime la vérité, écoute ma voix. Il y a des gens qui finissent à aller à l'église, ils entendent des enseignements, mais l'enseignement ne touche plus leur cœur. Tout simplement parce qu'il n'y a plus cet amour pour la vérité. Il y a une habitude, il y a un petit ronron. Peut-être même que certains se disent « Oh, moi je sais déjà ce qui va être dit ». Mais il n'y a plus cette aspiration à laisser la vérité être touchée, nous éclairer, nous stimuler. Le désir de ce matin, mes bien-aimés, c'est de stimuler votre désir à la vérité. Seigneur, je veux grandir dans la vérité. Je veux reconquérir ce cœur qui aspire à plus de vérité dans ma vie, de relation avec toi. Je veux connaître les choses telles que toi, pour toi, au travers de toi. Soyons conscients que nous vivons dans un monde, comme l'a dit Jésus, qui n'est pas le royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et le diable est appelé le père du mensonge. Alors, il y a vraiment une drôle de vie pour les chrétiens, parce que nous sommes dans un monde qui est rempli de mensonges, et nous voulons connaître la vérité. Et le diable n'est jamais en vacances, il n'a pas de RTT, il n'a pas 5 semaines de vacances, non. Au contraire, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il est animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et le diable a un stratagème, c'est de corrompre tout ce qui est la vérité. Et c'est très facile pour lui, parce qu'il n'a qu'un seul axe de pollution, c'est la parole de Dieu. Les jardiniers, ils doivent combattre contre plein de nuisibles, la guigne sur l'arbre, le champignon intel, l'insecte intel. Alors, il faut plein de produits différents pour traiter différentes choses. Mais le diable, lui, il sait qu'il a qu'une seule chose à combattre. La vérité. Et il va s'acharner, et il s'acharne au travers ce monde, à chaque fois qu'il y a quelque chose de vrai, qu'il y a la vérité, qu'il y a le véritable, alors il va toujours envoyer un petit moustique. Et ce petit moustique vient, il pique la vérité, et il laisse le poison, le venin de ce mensonge gangréner la vérité. Encore tout à l'heure, avant le culte, ça me faisait part des risques qu'il y a effectivement à toujours aller sur Internet, parce qu'effectivement il y a de tout. Et c'est bien. Mais il faut avoir du discernement. Parce qu'il y a aussi beaucoup de moustiques infectieux. Et nous devons avoir cette maturité, cette conscience. Non point avoir toujours le mal, absolument pas. Ne vivons pas comme des crispés de la vie, à nous dire nous avons la vérité. Je le rappelle, nous n'avons pas la vérité. Dieu est le véritable. Mais nous devons être conscients du monde dans lequel nous sommes. Paul dira, ne mettez pas foi à tout esprit. Ne soyez pas des enfants portés à tout vent de doctrine. Il faut que nous soyons affermis, non pas dans nos conceptions religieuses, mais que nous soyons affermis dans la vérité. Paul, condamné déjà, il parlait de ceux qui retenaient la vérité captive. Nous devons faire attention. Le mensonge ne peut pas cohabiter avec la lumière. Si au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui veulent s'approcher de Dieu, elles doivent faire du ménage pour qu'il n'y ait dans leur vie plus que qu'il n'y ait plus de mensonge et qu'il n'y ait plus que la vérité. Ce matin, il y a certainement des hommes et des femmes sincères dans leur démarche de foi. Et qui disent, Seigneur, mais j'aimerais vivre ce que ces gens-là vivent. J'aimerais vraiment avoir une relation avec toi, Seigneur Jésus. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit me remplisse. J'aimerais vraiment que ma vie soit dynamisée par l'action du Saint-Esprit. J'aimerais recevoir les dons. J'aimerais avoir cette autorité spirituelle. J'aimerais avoir ce dynamisme. J'aimerais moi aussi réaliser que la présence de Dieu est mon lot, mon quotidien. Je veux pas seulement là savoir des choses et ne pas les vivre avec le cœur. Mon frère, ma soeur, mon ami, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Le mensonge ne peut pas cohabiter avec la vérité. Il y a dans nos vies un nécessaire nettoyage. Retirons de nos vies tout ce qui ressemble à du mensonge. Il faut du courage, je l'avoue. Il faut du courage pour revenir peut-être sur des paroles où nous n'avons pas dit la vérité, pour reconnaître que nous avons menti. Il m'est arrivé de dire à un frère qui aime le Seigneur, mais je ne sais pas pour quelles circonstances, il avait dit quelque chose qui était faux. Il était d'accord pour signer un papier qui disait un mensonge. Il s'est engagé dans cette foi. Il dit, mon frère, confesse ton péché au Seigneur, mais va voir la personne. Présente-lui tes excuses d'avoir mal agi et rectifie le tien. Nous devons avoir le courage de supprimer de nos vies toute forme de mensonge, que ce soit à l'égard de nos époux, de nos enfants, de l'administration. Nous devons supprimer de nos vies toute racine de mensonge. Car quiconque laisse le mensonge dans sa vie va invariablement s'apercevoir qu'il va s'éloigner de la présence de Dieu, ou plus exactement, que la présence de Dieu va s'éloigner de son cœur. Il ne peut pas y avoir de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Mais ça vaut le coup de prendre ce courage. Ça vaut le coup d'avoir le courage de se lever et d'affirmer la vérité, d'arrêter le mensonge, de mettre la lumière là où il y a des zones d'ombre, parce que le diable travaille toujours dans les zones d'ombre. Mais le fruit de la vérité vous fortifiera, le fruit de la vérité vous rendra libre, le fruit de la libérer de la vérité vous donnera de la confiance en vous, il vous donnera de l'intelligence, elle vous rendra solide intérieurement et même psychologiquement, parce que toutes les fois que nous sommes englués dans un mensonge, on n'est pas à l'aise. Je me souviens de cette femme que j'avais visitée, et cette femme, en voulant bien faire, couvrait toutes les fautes de sa fille en cautionnant ses mensonges. Tu le dis pas, papa. Tu lui dis ça. Et voulant protéger sa fille, il dit, bon, mais c'est la dernière fois. Et j'étais témoin de ce genre de conversation. Elle n'était pas au Seigneur, cette femme. On a parlé du Seigneur ce jour-là. Et je lui ai conseillé d'arrêter de couvrir sa fille par le mensonge. Lui expliquant que non seulement elle ne rendait pas service à sa fille, mais que son propre cœur ne peut pas être serein en continuant à vivre dans le mensonge. Et cette femme, effectivement, était toujours dans les angoisses, toujours dans l'inquiétude. Elle perdait confiance en elle. Elle était même dans une situation de peur à l'égard de sa fille. Le mensonge n'apporte jamais rien de bon, parce que le mensonge vient de qui ?
Le diable.
Et le diable est l'ennemi de votre âme. Là où vous mettez le doigt dans l'engrenage du mensonge, croyant trouver une solution, vous êtes en train déjà de vous laisser bouffer jusqu'à votre cœur. Et cette femme qui n'était pas encore au Seigneur, mais qui a compris que Dieu est le véritable et que la vérité rend libre et affranchie, cette femme a commencé à changer et à dire à sa fille, je ne cautionne plus tes mensonges. On va faire autrement, je ne veux plus mentir. Rien qu'en une semaine, cette femme pouvait témoigner qu'elle se sentait mieux, qu'elle était libérée intérieurement, qu'elle retrouvait de la confiance en elle, qu'il y avait une maturité qui s'était affermie et que les relations avec sa fille étaient assainies. Ça vaut le coup d'avoir le courage de confronter le mensonge en face pour y établir la vérité. Amen. D'autant plus que je vous le rappelle, la vérité n'est pas une façon de penser. Ce n'est pas seulement une question de morale. Mais si vous agissez pour la vérité, sachant qu'en honorant la vérité, vous honorez Dieu, alors Dieu vous honorera. Et c'est ça la force et la différence entre toutes les philosophies de ces hommes qui discutent et qui essayent de trouver un sens à leur vie, sans jamais le trouver d'ailleurs. Et les enfants de Dieu, qui veulent vivre dans la vérité, non pas par légalisme, non pas par obéissance à une religion, mais parce qu'ils savent que la vérité est de Dieu et que maintenant, ils cherchent à honorer Dieu en vivant dans la vérité. Et Dieu dit que si il est avec nous, qui pourra être contre nous ? Quand nous honorons la vérité, nous honorons Dieu lui-même. Et quand nous honorons Dieu, Dieu nous honore. Soyez affermis de cette vision. La vérité doit également se faire dans nos conceptions religieuses et spirituelles. Qui est la vérité?
Dieu.
Dieu est la vérité. Je vais me provoquer en vous provoquant. Ou inversement. Votre pasteur n'est pas la vérité. Et je crois que le trois quarts d'ici sont conscients de ça parce qu'ils sont habitués à ça. Mais Dieu est la vérité. Nous n'avons pas à servir un homme, un institut, une organisation. Nous sommes tous appelés à chercher la vérité et le véritable. Et donc il est important, et de temps en temps ça ne se fait pas de mauvaise volonté. Parfois ce n'est pas de notre faute. De temps en temps c'est par un héritage familial. De temps en temps c'est on a été trompé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Paul condamnait ceux qui retenaient la vérité captive. Et même, Paul va continuer, il parle même de ceux qui ont transformé la vérité en mensonge. Ça existe. Et beaucoup de religions fonctionnent comme ça. Ils se servent de la vérité, mais la finalité, c'est le mensonge. Et je ne suis pas en train de chercher à condamner Pierre, Paul, Jacques, André et encore moins votre propre cœur. Parce que bien souvent, c'est un héritage familial, une habitude. On n'a pas été éclairé, on ne savait pas. C'est comme si on montait dans un train en disant « Oui, oui, ce train-là, il va à Bordeaux. »« Ah bon, vous croyez ? Oui, oui. Mais ça fait déjà 20 heures que je roule, c'est normal. »« Oui, oui, vous inquiétez pas. Il va bien à Bordeaux, vous inquiétez pas. » Et 3 semaines après, vous êtes toujours dans le train, il roule, il dit « Mais il va bien à Bordeaux. »« Oui, oui, vous inquiétez pas. » Alors bon, mais c'est un mensonge parce que si vous prenez un train qui roule 20 heures pour aller à Bordeaux, c'est que vous n'êtes pas sur le même chemin. Ou alors il n'avance pas du tout. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont dans cette situation-là. Sincèrement, ils cherchent Dieu. Et sincèrement, ils s'attachent à ceux qui prétendent avoir la vérité. Alors ils se laissent embarquer, ils écoutent, sans jamais vérifier si ce qu'on leur dit est vraiment du véritable et la vérité. Par contre, il y a dans la Bible des exemples en Actes chapitre 17, verset 11, où là, les disciples avaient rencontré des hommes et des femmes qui examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait c'était exact ou pas. Et c'est ça, le seul repère que nous ayons sur cette terre, c'est la parole de Dieu. Mais pas seulement la parole de Dieu, je veux revenir dessus. La parole de Dieu et l'action de la parole de Dieu dans un cœur. S'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, s'il n'y a pas la présence de Dieu, s'il n'y a pas un changement dans votre vie, s'il n'y a pas quelque chose qui change votre être intérieur, c'est qu'il vous manque l'essentiel. La vérité, le véritable se rencontre. Et quand on rencontre le véritable, ça change une vie, ça change une existence. La Bible nous dit que Dieu est la vérité, mais la Bible nous dit aussi que Dieu est amour. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu et la vérité sont inséparables. Mais Dieu et l'amour sont aussi inséparables. Parce que l'amour aussi n'est pas un concept, n'est pas un sentiment, il est aussi une personne. Donc si dans la même personne il y a la vérité et dans la même personne il y a l'amour, alors nous pouvons dire qu'il n'y a pas de véritable vérité sans amour. Il y a une différence entre la vérité et la connaissance. D'ailleurs, c'est Paul qui va en parler dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 8. Il va dire, et je paraphrase, de se mettre en garde contre la connaissance qui enfle, contre la connaissance que les gens peuvent emmagasiner et qui les rendent prétentieux. Et je crois qu'on a tous connu ce genre de personnes, même au nom de Dieu. Et il vient de vous parler comme ça. Tu devrais... C'est ceci, c'est cela. Mais Paul continue. Il va dire, mais ces gens qui croient connaître quelque chose, mais s'ils n'ont pas l'amour, ils ne connaissent pas comme il faut connaître. Parce que la vérité et l'amour sont indissociables. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être clairs sur cette réalité-là. La vérité n'est pas une arme. La vérité n'est pas un coup de bambou. La vérité n'est pas un moyen de manipulation. La vérité, c'est un instrument de levier. La vérité doit encourager. La vérité doit, effectivement, dans certains cas, trancher, mais avec amour, en instruisant, en reprenant. La vérité qui décourage n'est pas la vérité. La vérité qui humilie n'est pas la vérité. La vérité qui fait peur n'est pas la vérité. Ce sont peut-être des connaissances justes, mais ce n'est pas la vérité. Pour les lecteurs de la Bible, prenez l'exemple du livre de Job. Un homme malade dans la souffrance. Et ses meilleurs amis qui viennent. Alors, comme ils ne sont pas experts en médecine, et qu'apparemment il n'y a rien à faire, alors ils essayent de parler avec lui. Et puis ils lui donnent des petits conseils, tu sais. Peut-être que tu as péché, tu sais. Peut-être que tu as des trucs qui ne sont pas très clairs. Peut-être que si tu faisais comme ça, ça irait mieux. Peut-être que. Mais tout ce qu'ils disent, c'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, on se sert même de leurs propos pour dire des vérités. Mais ce n'est pas adapté. Ce n'est pas dit avec l'amour d'encourager, de stimuler. Faisons attention et faisons la différence entre la connaissance et la vérité. On peut dire des choses qui sont vraies, mais qui ne sont pas la vérité. Parce que ce qui rend la connaissance, ce qui rend quelque chose de juste vrai, c'est l'amour. Quand nous encourageons, quand nous voulons dire quelque chose de vrai, que nous le supprimions jamais de l'amour. Soyons des hommes et des femmes de vérité. Soyons des hommes et des femmes remplis d'amour. Parce que la vérité qui n'est pas dite avec amour peut blesser, elle peut même tuer. Elle peut défigurer même la vérité. Parce que l'effet qu'elle fera dans le cœur sera inverse de ce qu'on aurait voulu communiquer. Jésus n'a jamais blessé quiconque. Jamais. Jamais. Et si nous reprenons notre logique en disant la vérité, mes bien-aimés, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quand je cherche dans une conversation et que j'affirme que c'est la vérité, est-ce que je cherche à glorifier Dieu ou est-ce que je cherche à me glorifier? C'est facile de se servir de la vérité pour attirer son attention sur soi, pour montrer à la personne, tu vois, moi je sais. Toi tu sais pas, mais moi je sais. C'est facile de vouloir se servir de la vérité pour attirer la gloire à soi. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours se sonder, s'examiner soi-même. Et que dans ces genres de conversations où au nom de la vérité on essaie de discuter, que nous soyons toujours en tant qu'enfants de Dieu dans un état d'une relation d'amour. Parce que Dieu n'a pas besoin d'avocat. Dieu n'a pas besoin de vous pour se défendre, vous savez. Et ça, c'est une grande force de réaliser que quand nous communiquons la vérité, Dieu est assez grand pour se justifier. Que quand vous parlez à quelqu'un et que vous savez que c'est la vérité, c'est bien. Mais en même temps, réalisez que c'est que le Saint-Esprit qui peut convaincre le cœur de cet homme. Quand vous allez commencer à prier, parce que vous savez que par la vérité de la parole de Dieu, les hommes sont affranchis. Ne mettez pas votre force en vous. Mais dis Seigneur, confirme ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Quand vous discutez avec quelqu'un et que cette personne cherche à vous résister, priez intérieurement. Parce que le combat n'est pas d'ordre humain, il n'est pas d'ordre moral, il n'est pas d'ordre philosophique, il est d'ordre spirituel. Si la personne ne veut pas écouter ou qu'elle est dans la contradiction, ne cherchez pas à faire un bras de fer. Réaliser qu'il y a seulement besoin que ce soit Dieu lui-même, le véritable, qui amène la vérité dans la lumière, qui amène la vérité dans le cœur, qui éclaire et qui apportera la vraie direction dans le cœur de la personne. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, il fait chaud, hein? C'est dur pour vous, là? Ça va? C'est que si nous sommes logiques avec nous-mêmes et que si nous disons « Ah, moi je connais Dieu !» Je connais la vérité. Le Seigneur vit en moi. L'étape d'après, c'est que si véritablement Dieu est en vous, que la vérité est en vous, alors votre comportement sera le reflet de ça. Nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu et vivre dans le mensonge. Et le point que je veux développer là ce matin, c'est que la vérité n'est pas seulement des lettres, des mots. Pour un enfant de Dieu, la vérité, c'est une manière de vivre, c'est un art de vivre. Ça se Ça ne se dit pas, ça se transpire la vérité. La vérité, ce n'est pas des mots, mais ça se reflète dans la manière de parler. Ça se reflète dans l'attitude, dans la manière d'être. Ça se révèle même dans notre pensée. Car c'est en Philippiens chapitre 4, verset 8, qu'il est écrit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation et vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Apprenons, là aussi, à remporter une victoire contre l'ennemi de notre âme, en gardant dans notre esprit seulement les choses qui sont vraies. Reconnaissons qu'il y a une petite partie de notre cerveau, je ne sais pas si c'est un hamster ou une souris encore, je n'ai pas bien, mais qui mouline et qui fait qu'il y a des fois on réfléchit et pouf, on se fait des films, voilà. Donc il y en a un qui vit la même chose que moi. Mais c'est dangereux, ces films. Quand c'est des courts-métrages, à la limite, ça va. Mais des spécialistes de longs-métrages, du genre Le Grand Bleu, le film de 3h30, Au fond des mers. Et vous, quand vous discutez avec eux, vous arrivez seulement à la conclusion du film avec le générique. Et là, vous dites, mais comment t'as pu penser à ça? Non. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Et là, il y aurait une victoire sur l'ennemi. Parce qu'il y a des fois, nous avons des habitudes religieuses. Nous prions Dieu, nous proclamons la vérité. Nous sommes même capables de l'expliquer aux gens. Mais nous laissons des films dans notre esprit. Nous laissons des mensonges dans notre esprit. Nous laissons là des choses qui ne sont pas vraies. Et ça, ça nous pollue, et ça nous pervertit, et ça nous trouble, et ça nous coupe de la relation avec Dieu. Et on dit, Seigneur, mais parle-moi, saisis-moi, remplis-moi. Mais de l'autre côté, nous laissons ce petit hamster faire ses films, avec sa pellicule. Et lui, il a des bobines entières de films. Et nous le laissons faire. Il y a un exercice, c'est celui de vivre dans la vérité, en action, en parole et en pensée. Celui qui vit, celui qui est un enfant de Dieu, ça se voit dans tous ses aspects de sa vie. Je le dis, je le répète, un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit Dieu dans sa maison, sur son lieu de travail, dans la rue. C'est même les gens qui devraient vous dire, il y a quelque chose chez toi. Si nous sommes obligés de dire, tu sais, moi j'ai la vérité, c'est que déjà on est dans l'erreur. Parce que si nous avons besoin de nous justifier, c'est que c'est plus le Seigneur qui nous justifie. Nous avons besoin de prouver quelque chose aux autres. Nous sommes déjà dans l'erreur. Parce que quand nous sommes libérés, affranchis, et que nous vivons dans la vérité, nous n'avons absolument pas besoin d'être justifiés. Ni par Pierre, ni par Paul, ni par André, ni par moi-même. Paul dit, pas besoin de me justifier. Et comme l'a dit le frère dans sa prière, que ce soit Christ qui vive en nous. Amen. Et si Christ vit en nous, alors les gens verront. Alors nous serons motivés à parler du Seigneur. Alors nous aurons cette autorité qui ne viendra pas de nous, mais du Seigneur. Et la vérité affranchira notre cœur et le cœur de ceux qui nous entourent. En conclusion, je vous invite à lire un long passage en Éphésiens, chapitre 4. Et ce sera la conclusion, ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas de commentaires. Enfin, pas de commentaire de plus de 3/4 d'heure, évidemment. Éphésiens chapitre 4. Et là, on va lire toute une description de la vie du chrétien. Et vous allez voir, maintenant qu'on a parlé de la vérité, vous allez voir combien la place de la vérité influence toute l'expérience de l'homme et de la femme qui croient en Jésus. Éphésiens chapitre 4. Lisons à partir du verset 17. Et on continuera juste après le verset au chapitre 5, verset 21. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, leur philosophie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si de moi vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises, mais plutôt à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent. Vous voyez la différence là, la vérité, elle communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Coupez la tête du hamster. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Qu'on entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Ça, c'est les blagues un peu tordues, là. Choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, même un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, pas de cohabitation. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car ce qui est ainsi manifesté est lumière. Et c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi ! Réveille-toi, toi qui dors ! Réveille-toi d'entre les morts !» Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, et rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses, au nom de votre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Amen. Amen. Que la lumière du ciel prenne de plus en plus de place dans notre cœur. Apprenons à laisser tout ce qui ressemble au mensonge dehors. Et si vous honorez la vérité dans la vie, dans votre vie, Dieu vous honorera. Amen. Amen.